France Inter, Ali Badou, 15 minutes de plus.
15 minutes de plus et j'ai le bonheur de recevoir un écrivain formidable, prix Goncourt en 2013 pour Au revoir là-haut, un avenir radieux, c'est le titre de son dernier roman et c'est l'un des livres les plus attendus de cette rentrée littéraire. Le livre arrive en librairie mardi prochain, il est publié chez Calman Lévy. Bonjour Pierre Lemaitre.
Bonjour.
Et bienvenue, non seulement j'ai lu je pense tous vos polars, mais vous avez une nouvelle manière de raconter des histoires, une manière qui s'apparente peut-être au roman historique, on va en parler. En ouvrant le livre, on tombe sur une citation de Victor Hugo assez étonnante pour un romancier. « Le lecteur rencontrera deux ou trois circonstances invraisemblables que nous maintenons par respect pour la vérité ». Pourquoi cette mise en garde ?
Ouais, parce qu'elle est un petit peu abyssale, en fait. Dans cette formule, Hugo relie en même temps l'invraisemblable avec la vérité et prétend que ce qui est invraisemblable est justement ce qui est vrai. Et c'est d'une certaine manière une certaine définition de l'art romanesque. Notre métier à nous, c'est de faire croire que sont des vérités, des choses qui sont purement fictionnelles.
Mais ça, c'est quelque chose que vous retrouvez surtout en écrivant des polars, ou est-ce que c'est aussi quelque chose qui fait partie intégrante de l'écriture d'un roman historique, par exemple?
Oui, ça fait partie intégrante parce que, au fond, on est toujours en train de raconter une histoire. Le registre dans lequel vous la racontez n'est pas le même registre dans le roman noir, dans le roman policier ou dans le roman historique. Mais vous êtes toujours face au même problème. Vous essayez de faire croire à un lecteur, lui faire vivre comme si elle était vraie, une aventure qui est purement fictionnelle. En fait, nous sommes des menteurs professionnels et je trouvais que de la part de Hugo, c'était très malin de mélanger à la fois le vraisemblable, l'invraisemblable, en disant tout ça c'est de la vérité, mais on ne sait pas de quelle vérité il parle, s'il s'agit de la vérité vraie ou de la vérité romanesque.
D'autant qu'il en parle dans Les Misérables et souvent on prend les textes d'Hugo de cette période-là comme la vérité de ce qui se passait à son époque, un avenir radieux. C'est donc le troisième volume d'une tétralogie. Vous continuez votre travail sur l'histoire avec un grand H. Ça avait commencé au lendemain de la guerre de 14. Là, on est pendant les 30 Glorieuses en 1959. Les 30 Glorieuses, pourquoi est-ce que vous avez voulu vous installer dans cette période historique qui, au fond, n'a de glorieuse que le nom?
D'abord, justement, parce qu'elles n'ont de glorieuse que le nom, ce que nous savons quand même depuis peu de temps. Je veux dire, en 59, en 60, dans ces 30 glorieuses, on vit l'instant présent et on n'a pas du tout l'idée que cette période, qui est une période assez enchantée, le capitalisme va bien, le niveau de vie des Français, globalement, s'élève. On a l'impression
croissance
que,
économique.
Tout à fait, croissance économique. Le chômage est quasi moins connu. Un chômeur, c'est un clochard, vous voyez, à l'époque. On utilisait d'ailleurs, quand j'étais petit, le mot était équivalent, c'était synonyme, vous voyez, parce qu'il faut dire qu'on a fait du chemin depuis. Et pas forcément dans la bonne direction. Donc tout ça pour dire, cette période-là des 30 Glorieuses, c'est une période dans laquelle il y a une espèce de... Alors c'est l'expression à la tarte à la crème en ce moment, la parenthèse enchantée. Enfin, oui. C'est vrai que c'est une longue parenthèse d'une trentaine d'années qui fait qu'on a l'impression de vivre un bonheur qui va durer. Et l'intérêt d'écrire aujourd'hui sur cette période, c'est justement d'avoir un regard critique sur cette période qui était en train de tisser exactement le bordel dans lequel nous sommes aujourd'hui, à savoir par exemple le réchauffement climatique.
Avec l'énergie nucléaire par exemple, qui se développe avec des produits phytosanitaires, l'agriculture ultra-intensive qui asphyxie les abeilles de cette jeune héroïne qui est présente dans ce livre. On croit au doux commerce qui pourrait garantir la paix entre les nations, notamment entre la Tchécoslovaquie communiste et la France. Mais toujours il y a, là je parlais de la jeune Colette, un personnage autour duquel tout s'imbrique. On ne va pas spoiler, comme on dit, le roman, mais pourquoi choisir des personnages de petites filles? On les retrouve souvent dans vos livres. Alors, écoutez, et en général, il faut s'en méfier, Pierre Lemaitre.
Oui, alors je vais vous dire, un écrivain, c'est quelqu'un qui a 3-4 trucs à dire et qui essaye, livre après livre, de les dire à peu près correctement. Alors moi, quand je regarde, j'ai publié, je crois, 16 ou 17 livres depuis le début de ma carrière, que j'ai commencé assez tard, donc j'ai des excuses.
Oui.
Quand je regarde, au fond, viennent affleurer un certain nombre de thèmes, et je pense que l'enfance cabossée, l'enfance malheureuse, l'enfance blessée, l'enfance violentée, fait partie de mes thèmes quasiment depuis le début. J'avais ça déjà dès mon premier livre qui s'appelait Travail soigné, puisque j'avais un personnage, Camille Verhoeven, qui était un enfant blessé par sa mère. Donc en fait, j'ai l'impression que parmi les thématiques qui sont les miennes, je dirais mes obsessions pour faire court, eh bien il y a certainement l'enfance cabossée, d'où l'arrivée de la petite Colette dans des conditions dramatiques au début du livre.
Et elle est beaucoup plus sympathique qu'Alex, par exemple, qui était le personnage central d'un de vos romans policiers. Le lecteur est souvent complice. Là, en l'occurrence, c'est plutôt du côté du roman d'espionnage qu'il faut regarder pour vous comprendre, Pierre Lemaitre, avec un modèle en tête. C'est pas James Bond, l'espion, dans ce livre-là. Il est plutôt du côté de Slow Horses, il est plutôt du côté de Le Carré.
Oui, tout à fait. Alors, précisons quand même, il ne s'agit pas d'un roman d'espionnage, c'est avant tout un roman d'action, mais où vous avez totalement raison, Ali Badou, c'est qu'il y a une ligne d'espionnage qui est ramenée, je dirais, à sa substance. C'est pas... Vous savez, dans les romans de John Le Carré, moi je me perdais, j'adorais ça. Hein. J'étais le premier à acheter à la librairie quand sortait le John Le Carré, mais de temps en temps, j'étais tellement perdu dans des intrigues extraordinairement complexes que je continuais de lire en me disant je finirais forcément par comprendre ce qui arrivait toujours. Ouais. Donc, moi, j'ai voulu éviter cet écueil. J'ai fait une histoire d'espionnage qui est extrêmement simple, parce que l'enjeu n'est pas tellement de raconter une histoire d'espion, mais de raconter l'histoire d'un fils Pelletier qui se retrouve à Prague en 59, chargé d'une mission quasiment impossible, et on ne sait pas comment il va s'en sortir. Donc, j'ai plutôt voulu jouer avec les codes du roman d'espionnage qu'écrire un roman d'espionnage proprement dit.
La famille Pelletier, il y a donc l'un des fils, François, il y a les frères, il y a donc une trame ou un arrière-fond géopolitique, celui de la guerre froide. C'est ce qu'évoquent les services de renseignement. Vous dites que ça représente quasiment l'inconscient d'une société. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ça veut dire
parce qu'on croise la CIA, on croise le KGB, les services tchèques également.
Oui. La Stasi.
L'inconscient d'une société.
Oui, parce que, alors ça c'est une expression que j'emprunte à John Le Carré qui disait que les services de renseignement étaient l'inconscient des sociétés occidentales. Je me suis beaucoup interrogé sur ça et je suis assez d'accord avec cette idée. Au fond, le monde du renseignement, c'est un monde souterrain. Hein, rien ne dépasse, on ne doit rien savoir. C'est presque la définition de l'inconscient. C'est ce qui est souterrain en nous. Sauf que, exactement comme notre inconscient qui de temps en temps fait irruption dans le réel, les lapsus, les actes manqués, etc., ou nos comportements même, eh bien, de la même façon, de temps en temps, vous voyez arriver des histoires d'espionnage qui vont nous inquiéter terriblement parce qu'on sait que c'est le signe de quelque chose, mais on ne sait pas de quoi. Donc en fait, ça agit exactement comme l'inconscient.
Et ça, on le sent dans le livre.
J'espère, j'espère.
Mais le lecteur est souvent complice. Vous le prenez à témoin de ce qui va arriver au personnage au lieu de le tromper, au lieu de le manipuler.
Oui. Alors, en fait, j'essaye d'établir une connivence un peu particulière avec le lecteur puisque, à la fois, je le mets de mon côté quand je raconte, c'est-à-dire, je lui adresse des clins d'œil, de temps en temps je lui parle, hein, je lui dis, vous vous souvenez sans doute, c'est ce que faisait Dumas, moi j'adorais ça quand j'étais gamin, et même encore aujourd'hui. Et puis en même temps, je suis obligé de jouer avec son plaisir. Si je dois lui créer du plaisir, c'est parce que je réussis à le manipuler. Au fond, qu'est-ce que c'est que la littérature, surtout la littérature populaire? C'est le plaisir d'être manipulé pour une bonne cause. Vous voyez, au lieu d'être désagréablement surpris par une manipulation et d'en être déçu, c'est d'être joyeux et content de s'être fait avoir. Finalement, moi, quand je lis un bon roman et que je tombe à la fin sur une surprise que j'attendais pas, je me dis ah bravo, bravo l'artiste. Donc voilà, j'aime bien l'idée que de temps en temps un lecteur, une lectrice, à dire ça de mes livres.
Oui, la lectrice, le lecteur, je vous cite, s'en sont déjà rendu compte. C'est l'un des exemples. Jean était souvent soulevé in extremis par une idée, un détail. Vous entamez quelque chose comme un dialogue avec votre lecteur et c'est là pour le coup très différent de la tradition de Dumas, du pur roman feuilleton qui vous embarque et qui font tourner les pages après les pages.
Oui, alors Brecht, hein, le grand auteur dramatique Brecht, parlait de ça en disant c'est quand même bien que le spectateur, le lecteur, ne s'immerge pas intégralement au point d'oublier qu'il est en train de regarder une pièce ou de lire un livre. Et moi, je crois assez à ça.
Ah oui,
je pense que c'est bien que le lecteur, en tournant les pages, soit dupe de l'histoire et du plaisir à l'histoire, mais n'oublie jamais qu'il est en train de lire une histoire. Hein, vous voyez, en fait, c'est une espèce d'épreuve de lucidité. La littérature, quand elle est bien faite, elle pourrait faire perdre un peu de lucidité. On lit le livre, on est immergé dedans, et au bout d'un moment, on croirait tout ce qu'il nous dit. Et moi, je pense à l'esprit critique, je pense que le lecteur doit rester critique par rapport à ce qu'il lit, y compris quand il y prend du plaisir. Et donc, je m'adresse à lui comme pour le secouer en lui prenant l'épaule, en disant, n'oublie pas que tu es en train de lire une histoire.
Hein, ne l'oublie pas. Mais vous avez une définition quasiment modeste du métier. Vous avez une définition quasiment modeste du métier de romancier. On n'est pas dans la mythologie de l'artiste ou du créateur qui a son génie et qui raconte des histoires. C'est comme s'il n'y avait pas de roman, pas de livre qui pouvait changer la société, changer le monde.
Alors, des livres qui ont changé la société, il y en a eu, mais pas des romans. La Bible ou le Capital de Marx sont des livres qui ont, d'une certaine manière, changé le monde, comme, L'Archipel du Goulag de Solzhenitsyn dans les années 70. Hein. Mais par contre, du point de vue des romans, c'est pas comme ça que la littérature agit. Ça n'est pas parce qu'un roman va changer la vie, c'est parce que l'ensemble de la littérature, c'est-à-dire la somme des choses que vous allez lire, va forger votre vision du présent. Au fond, la littérature est une espèce de machine à décrypter le réel, mais chaque roman ne fait qu'en décrypter une petite partie. Au fond, le roman ne change pas la vie, c'est les romans, c'est-à-dire la littérature, qui, par le bain dans lequel vous êtes, qui vous donne, au bout d'un moment, un certain nombre d'outils pour comprendre le réel. C'est à ça qu'elle sert. Elle prétend pas être révolutionnaire au sens où, du jour au lendemain, en terminant la dernière page d'un livre, vous auriez changé votre vie ou compris d'un seul coup tout ce que vous n'aviez pas compris jusqu'à présent, mais parce que, au fond, livre après livre, vous forgez une certaine conception du monde, vous la critiquez, vous l'amendez, vous la faites évoluer. C'est à ça que sert la littérature.
Et pourtant, dans le livre, il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot de mémoire. La mémoire qui hante l'un des personnages qui a connu la guerre de 14, qui vit cette culpabilité qu'ont souvent les survivants, la mémoire, les non-dits qui se transmettent entre les parents et les enfants. Je vous cite, moi, ce qui m'a abîmé, pensez Louis, ce n'est pas la vie, c'est la guerre, la première, vu que maintenant il fallait leur mettre des numéros. Mais attention, interdiction d'en parler de la guerre, très mal vu. Les non-dits, c'est...
Oui, alors
quelque chose avec lequel vous jouez, parce que il y a un énorme travail de recherche historique dans vos livres.
Oui, alors la mémoire, c'est ce qui sert à comprendre d'une certaine manière. C'est parce que je me souviens de quelque chose que je peux l'analyser. Hein. Sans mémoire, on est dans l'instant présent. Il y a même plus de temps puisqu'il y a pas d'avenir et il y a pas de passé. Dans le cas de Louis et la citation que vous faites, c'est d'autant plus dramatique, c'est que cette génération a vécu une guerre innommable. Hein, je veux dire, vous voyez, vraiment c'est l'horreur absolue. Vous voyez, c'est comme Gaza aujourd'hui, quoi. Bon, vraiment, c'est l'horreur absolue. Et en fait, dans les années d'après-guerre, on veut surtout oublier ce qui s'est passé, et ceux qui en ont été victimes sont, d'une certaine manière, condamnés au mutisme. Petite anecdote, hein, une lectrice vient me voir quand je publie Au revoir là-haut, en librairie, et elle me dit « Oh, vous savez, monsieur, vous m'avez fait beaucoup penser à mon grand-père. » C'est toute une femme un petit peu âgée. Hein. Elle me dit « Vous savez, quand on était petit, on n'arrêtait pas de lui dire « Mais papy, arrête de nous emmerder avec ta guerre, arrête. » Et vous voyez, quand je lis votre livre, je me dis « Oh, on n'a pas été gentil avec lui. » Vous ne pouvez pas savoir ce que ça a pu m'émouvoir et comme je me suis senti utile à quelque chose.
On se sent utile comme romancier. Les années à venir, aller demander des comptes à ceux qui avaient vécu sans compter et sans crainte du lendemain, c'est comme si... l'histoire revenait toujours demander des comptes à ce qui s'était passé. Quand est-ce que vous allez arriver au présent, Pierre Lemaître ?
Mon espérance de vie, comme tout à chacun, se réduit un petit peu plus chaque année, donc je peux pas vraiment répondre. J'adorerais pouvoir répondre à votre question.
Mais on vit de plus en plus longtemps.
Oui, bon, c'est vrai, vous avez raison. Écoutez, pour l'instant, je termine donc cette tétralogie sur les 30 Glorieuses. Ensuite, il y aura une trilogie sur les années suivantes, c'est-à-dire 75 à 89. Et voilà, si, comme on dit, Dieu me prête vie, quoi que je n'y crois pas beaucoup, je crois beaucoup en la vie, mais beaucoup moins en Dieu, je continuerai, et dans ce cas-là, j'arrive jusqu'à nous, et je pourrais parler de France Inter dans mon prochain livre. Ça.
Enfin, et on vous souhaite en tout cas un avenir radieux. C'est un roman formidable qui paraît donc chez Kalman Lévy et qui sera disponible dès mardi en librairie. Merci.
Merci de votre accueil.
Pierre Lemaître, d'avoir été l'invité de 15 minutes de plus.